Slate Podcast.
Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Brian est un homme cis, bisexuel de 23 ans. Il a trouvé le bonheur quand il a réussi à se détacher de ses croyances sur le couple et à assumer qui il est. Bonjour Brian.
Bonjour.
Je vais commencer par la question rituelle, on se voit ou on se tutoie?
Non, on peut se tutoyer.
Donc maintenant qu'on se tutoie, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois?
C'est un petit peu compliqué, je m'en souviens, mais ma vraie première fois, c'est-à-dire avec une fille. Cette première fois est intervenue au lycée. Et en fait, c'est vraiment un amoncellement de souvenirs très flous, puisque c'était ma première relation avec quelqu'un, autre que les amourettes d'école primaire. Et en fait, il s'est trouvé qu'on a attendu très longtemps avant de le faire, puisque à cette personne-là, ses parents ne voulaient pas qu'on le fasse. Et en fait, elle suivait les directives de ses parents. Bon, après, elle fait ce qu'elle veut, il n'y a pas de souci. Donc moi, j'ai attendu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a quand même eu des expérimentations. Mais en fait, elle ne voulait pas qu'il y ait de pénétration. Donc en fait, en termes de première fois, je ne me souviens pas vraiment de cette première fois-là, précisément. Mais pour moi, ça compte. Enfin, toutes ces fois-là, en fait, comptent un peu comme une première fois, c'est-à-dire une découverte du corps de quelqu'un d'autre, de son plaisir à soi et du plaisir de l'autre. Et c'est pour moi assez intéressant, en fait, puisque c'est au lycée, c'est là que on a sa première copine, que en même temps les amis aussi à droite à gauche ont leurs premières expériences. Et donc en fait, il y avait aussi ça qui rentrait en ligne de compte.
Quand tu dis que avant cette première fois pénétrative, il y a eu d'autres choses, c'était quoi? Ça relevait de l'ordre du sexe oral, par exemple?
Oui, voilà, c'est ça, du sexe oral, des caresses, la découverte en termes de... avec la langue, un peu partout, sur le corps. Et en fait, il se trouve qu'il y avait l'envie qui montait de vouloir aller plus loin. C'était vraiment une envie de découverte, c'est-à-dire pourquoi pas aller plus loin. Et en fait, il y avait vraiment ce blocage qui était manifestement de son côté. Après, voilà, je sais qu'il y avait, avec ses parents, c'était un peu compliqué, donc voilà.
Est-ce que tu te souviens que tu as été frustré dans toute cette montée-là, ou au contraire, tu étais plutôt content quand même de faire des choses et de prendre du plaisir et de découvrir tout ça?
Ça a été assez long, en fait, cette période. C'est-à-dire que ça a duré à peu près un an de relation. Donc, en fait, au début, ça allait. Et plus le temps passait, plus il y avait des étapes qui se rajoutaient. Donc, en fait, je me demandais si c'était elle ne voulait pas, ou est-ce que c'était vraiment une vraie raison. C'est-à-dire qu'au départ, c'était « mes parents veulent pas », ou ensuite, c'était « ils veulent pas avant ma majorité »,« ils veulent pas avant que j'ai la pilule contraceptive », ou ce genre de choses. Et donc, en fait, plus le temps avançait, plus je comprenais pas d'où venait le problème. Et donc, oui, à un moment donné, il y a une petite frustration.
Est-ce que tu te souviens d'avoir pris du plaisir quand même pendant ces expérimentations?
Oui, j'ai jamais perçu ça comme quelque chose qui n'était pas fini. C'est-à-dire que, ok, ça allait pas plus loin, mais il y avait quand même du plaisir, c'était quand même là, il y avait quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait des orgasmes, il y avait des éjaculations, ce genre de choses. C'est juste qu'il n'y avait pas cette pénétration-là qui, en fait, quand on est jeune, au lycée, c'est un peu le Saint Graal qu'on veut tous attendre. Et après, plus tard, on se rend compte que, bon, finalement, il n'y a pas que ça.
Quand vous avez réussi à passer cette étape de la pénétration, dont tu ne te rappelles pas très exactement, est-ce que tu te souviens qu'après, vous avez continué, vous l'avez refait? En fait, ça a fini par faire partie de vos rapports?
En fait, on en a eu. C'était pas souvent. J'ai un peu perdu cette habitude de le faire avec elle. Et on le faisait quasiment jamais. Il y avait en plus cette frustration de pas se voir, tout ça. Et quand on se voyait, on le faisait pas forcément jusque-là. Parce qu'en fait, on avait pris cette habitude de ne pas le faire avec la pénétration. Sachant qu'en plus, ça lui faisait un petit peu mal quand elle le faisait. Je sais pas pourquoi. Il y a forcément des raisons. Et je peux pas lui en vouloir pour ça, bien sûr. Mais du coup, on n'a pas pris cette habitude-là. Donc en fait, une fois l'étape franchie, on a un petit peu compris que c'était peut-être pas forcément ça qui était le centre de la relation.
Donc tu as eu une relation avec cette jeune femme basée sur une sexualité non pénétrative, en fait?
Oui, majoritairement, en fait.
C'est-à-dire satisfaisante.
Et satisfaisante.
Quand est-ce que vous vous êtes séparés?
Alors, on s'est séparés 5 ans après le début de cette relation. Donc en fait, il y a eu plein d'étapes qui ont été franchies. Il y a eu l'étape de la fin du lycée, du début des études. Moi, j'ai fait plusieurs changements d'études. J'ai été à Paris, puis après, je suis revenu au Bercail. J'ai un petit peu changé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on n'habitait pas ensemble. Elle habitait avec ses parents. Puis en fait, il y a eu cette décision d'habiter ensemble. Et on s'est mis à habiter ensemble pendant presque 2 ans et demi, je crois. Et pendant ces 2 ans et demi, ça a été une année formidable de découverte d'habiter avec quelqu'un et une autre année un peu moins formidable, si ce n'est catastrophique sur la fin, puisqu'en fait, il y a eu l'intervention d'une jalousie très forte de cette personne, puisque j'avais eu des amis aussi dans ce sens-là, et des amis femmes qui rentraient dans le lot.
On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, mais on va parler d'une autre première fois, parce que tu te définis comme bisexuel. Il y a eu une première fois avec un homme, c'était quand ?
C'était beaucoup plus tard, en fait. C'était en 2018, après la rupture avec ma première copine. Et en fait, il se trouve que c'est intervenu dans un cheminement logique. C'est-à-dire que depuis mon lycée, il y avait eu en tâche de fond cette envie de faire quelque chose avec le même sexe, en fait, avec un homme. Et c'était vraiment en tâche de fond. C'est-à-dire qu'il y avait une envie, il y avait l'hétéronormativité qui rentrait en compte, le fait que j'étais en couple avec une femme qui rentrait en compte, donc la tromperie, toutes ces choses-là. Et en même temps, le fait de se dire « Non, mais c'est juste, voilà, tu veux juste expérimenter, c'est rien, c'est une passade, comme on dit. » Et en fait, quand je me suis séparé de cette personne, je me suis dit « C'est resté en tâche de fond et c'est devenu presque en tâche principale. » C'est-à-dire que je me suis dit « Bon, là, il est temps d'essayer. » Ben, du coup, j'ai sauté le pas. C'était pas mémorable, mais au moins, ça avait le luxe d'être une expérience étrangement satisfaisante, du coup.
C'est quelqu'un que t'as trouvé comment ?
C'est quelqu'un que j'ai trouvé via une application de rencontre, en fait. Un peu aussi par cette facilité déconcertante qu'ont les hommes, je trouve.
Entre eux.
Entre eux, voilà. Contrairement avec les femmes, c'est un petit peu plus laborieux.
Où là, j'imagine, tu ouvres ton appli, tu as besoin de quelqu'un à un instant précis et tu trouves quelqu'un très rapide.
Oui, c'est presque plus rapide qu'Amazon. Franchement, ça va très très vite.
C'est un très bon exemple. Tu as connu une sexualité avec une femme avant. Ça fait quoi d'être avec un homme pour la première fois ? Même si c'était pas quelqu'un pour qui t'avais des sentiments, même si tu t'en foutais sur ce principe-là, ça fait quoi de voir un autre pénis, par exemple ?
C'est assez déroutant, même si c'est pas surprenant, parce qu'en fait, ça m'était déjà arrivé, puisque je faisais du sport quand j'étais plus petit. Donc, j'ai été dans les vestiaires comme tout le monde, et bon, voilà, des pénis, on en voit pas mal. Il n'y avait pas cette question-là à ce moment-là. C'était pas un choc non plus. Hein,
t'étais pas mal à l'aise devant un homme nu.
Parce que justement, on est plus facilement mal à l'aise devant le sexe opposé nu, puisqu'on ne connaît pas du tout. Alors que face au même sexe nu, à moins de se dire, oh, comme il est bien gaulé par rapport à moi. Mais sinon, bon, voilà, on n'est pas trop surpris. Mais par contre, j'avais quand même une retenue sur plein de choses qu'on fait naturellement avec une femme pour embrasser, pour être dans la tendresse. En fait, c'était beaucoup plus difficile parce que j'avais quand même toujours aussi cette chose en tâche de fond qui me disait « Non, ce que tu fais, en fait, c'est pas vraiment normal. » Alors que pourtant, ça a jamais posé de problème en plus dans mon entourage, avec ma famille et tout ça. Ça a jamais été un problème, ça. Mais ça avait posé aussi problème avec mon ex-copine qui m'avait pas fait comprendre puisqu'on était en couple. Mais voilà, sa famille a été clairement homophobe, ce genre de choses. En fait, ça ancre des choses dans la tête qui te font dire « Bon, là, ce que tu fais, en fait, c'est une expérience, mais... t'es globalement dans la déviance.
T'as eu ce sentiment-là quand t'as sauté le pas ? Tu t'es dit à la fois j'aime ça, je prends du plaisir, mais c'est pas bien ?
Oui, c'est ça. La première fois, je me suis vraiment dit ça.
Est-ce que t'en as parlé avec la personne ? Ou c'était pas du tout l'occasion d'en parler, et du coup, non ?
Non, puisque comme on l'a dit, c'était vraiment... c'était une commande. Donc vraiment, on en a pas discuté, mais c'est en partant en fait. C'est-à-dire qu'en plus, quand je suis parti de ça, c'était la première fois que je faisais un plan comme ça, comme on dit, puisque j'étais au lycée, en campagne et tout, on ne faisait pas ce genre de choses. En partant à pied, j'ai vraiment eu cette réflexion en me disant « Mais qu'est-ce que t'as foutu, quoi ?» Est-ce que... j'étais un peu comme en descente, en me disant « Non, mais ça va pas du tout. » Voilà.
T'avais vraiment le sentiment d'avoir fait une grosse bêtise.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que t'as pris du plaisir ?
Bah, en fait, j'avais presque honte d'avoir pris du plaisir, parce que du coup, c'est là qu'en est venu l'effet descente. C'est-à-dire que j'avais eu du plaisir, j'étais bien, et en fait, c'est redescendu. En plus, bon, on a cette malchance d'être câblé pour, des fois, enfin, après l'éjaculation, tout ça, être un petit peu dégoûté pour dire non, c'est bon, on a fait notre travail, c'est parti. Donc, du coup, on a cette malchance, en fait, en plus de ça, d'avoir cette vraie descente. Si en plus on rajoute l'effet psychologique derrière de se dire ce que j'ai fait c'est une connerie, bah du coup dans la rue on voulait mieux pas me croiser parce que je vais tirer une tête.
Alors que bon, bah, c'est, donc c'était le début de ta vie.
C'est ça.
Je crois que c'est le moment de faire une petite pause dans ce récit. Je te propose qu'on apprenne à mieux te connaître avec un petit jeu qui est basé sur le jeu à boire je n'ai jamais, sauf qu'il est inversé. Donc c'est un jet déjà. Je vais te partager des affirmations et tu vas me dire si elles t'évoquent des choses. Donc ça peut être des souvenirs, une envie, une anecdote, ou un dégoût, ou un fantasme, on ne sait pas. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires.
Alors il se trouve que oui, mais uniquement des garçons du coup.
Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire ?
Oui, oui, même si au début j'étais très gauche parce que en fait... Du fait que j'avais cet imaginaire avec les femmes, je pensais que ça se lubrifiait pareil, on va dire.
D'accord.
Donc j'ai eu au début quelques remarques en disant que forcément j'y allais peut-être un peu fort. Mais en fait maintenant j'ai compris. Donc,
t'es équipé, voilà. Tu sais comment faire.
Exactement.
En fait juste un défaut d'éducation sur cette question.
Oui c'est ça en fait. Et en fait c'est surtout que c'est triste que ce soit si tabou d'un côté comme de l'autre. Parce que du coup, on n'en parle pas, alors que c'est un petit peu le temple du plaisir quand même, hein, mine de rien, pour les hommes. Donc, quand on t'explique pas, parce que le problème, c'est que quand tu rentres dans le milieu gay, si je puis dire ça comme ça, on considère tout de suite que t'es initié. Et que, en fait, t'as déjà tout fait, et alors que, bah non, des fois, tu arrives de là, et en plus, bah, il ne manquerait plus avec certains que tu dises que t'es sorti avec une fille pour que tout de suite, voilà.
T'as un peu catalogué.
Voilà, c'est ça.
Et en plus, la question de la lubrification se pose aussi pour les femmes dans le cadre de la sodomie. Donc,
oui.
C'est vraiment des choses qu'on n'apprend pas correctement, qui ne font pas partie de l'apprentissage, qu'on découvre, en fait, dans les sex shops ou dans des choses qui ont un goût d'interdit aussi.
Oui, c'est ça.
Alors que, bon, bah, donc, du coup, je vais vous le dire, hein, vous entrez dans un sex shop, les gens sont extrêmement sympathiques. Vous demandez des conseils ou des conseils sur les produits, ils seront ravis de les donner, mais il faut faire ce pas d'abord, d'entrer dans des lieux où on peut donner ces conseils-là. Dans la vie, dans les pornos, dans toute la culture qu'on peut avoir, on n'en parle pas ou très très peu. Quoi.
Je pense que c'est ça aussi la vraie étape quand on dit la libéralisation sexuelle, je pense que c'est vraiment ça, c'est que les gens arrêtent de vraiment phaser en fait sur tout ce qui est sexuel et de penser tout savoir. Et du coup, en fait, des fois, bah, mal faire.
Et puis, il faut demander à ceux qui font.
Oui,
ça peut
simplement.
Être aussi des conseils de gens qui pratiquent, surtout sur la question de la sexualité. Il y a des gens qui pratiquent beaucoup, qui ont plein de savoirs à partager. Il faut demander, puis c'est aussi le truc un peu con-con aussi, mais d'oser demander à des partenaires, en particulier quand on fait, bah, donc, tu disais, des plans, donc des rencontres d'un soir, des choses comme ça. On n'a pas cette stade de la discussion où on dit, est-ce que t'as aimé ça? Est-ce qu'il faut que je fasse mieux? Est-ce qu'il faut que machin? Et pourtant, c'est nécessaire. Dans tous les rapports sexuels, même les rapports sexuel d'un soir, pour homme comme pour femme, le moment de la discussion pour à la fois s'améliorer vis-à-vis de l'autre et en apprendre plus sur soi et sur les autres en général, c'est hyper important. Donc je pense que ça peut être une étape à rajouter, quoi qu'il arrive, pour tout le monde en général. J'ai déjà été sodomisée.
Oui, même si du coup, là c'était vraiment, vraiment l'étape de trop, on va dire. Voilà, donc comme je
Alors,
disais un peu
dire...
plus tôt. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait ça, en tant qu'homme, je pense qu'on peut tout faire après. Une fois qu'on s'est laissé, on s'est donné comme ça, en fait, on comprend déjà tout de suite beaucoup mieux les femmes. Tout de suite, on devient un peu plus empathique, on fait « mais en fait, c'est... » voilà. Et en plus, on se dit « mais j'aimerais bien être à leur place plus souvent ». C'est vraiment très étrange parce que, voilà, il y a toujours ce truc d'un peu d'interdit, de c'est pas bien. Alors qu'en fait, bon, une fois qu'on l'a fait, on dit, bon, bah, quand est-ce qu'on le refait, quoi?
Tu penses que ça t'a un peu libéré, la sodomie? Que passer cette étape et l'aimer, ça t'a fait du bien?
Je pense que ça permet, en fait, de vraiment arrêter de penser que ce qu'on fait, c'est juste une expérience. Je pense que c'est vraiment là où on dit, si tu aimes pas, ça peut aussi être... voilà. Mais quand on aime ça, je pense que ça veut dire quand même pas mal de choses.
C'est un indice.
Voilà, c'est quand même un indice assez fort.
Donc c'est quelque chose que tu aimes.
Oui.
Tu pratiques les deux, du coup? Tu aimes être sodomisé et sodomisé? C'est quelque
Alors,
chose
je...
qui fait partie de ta pratique sexuelle?
Ouais. Même si j'ai plus tendance à être le partenaire actif, mais ça me dérange pas du tout d'être de l'autre côté.
J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre.
Maintenant, j'y pense qu'avec certaines personnes, c'est arrivé que je pense à quelqu'un d'autre puisque j'avais un crush sur le moment. Et c'est vrai que maintenant que ça me revient...
Le crush s'est imposé.
Ouais, vraiment. Et du coup, c'est là aussi que je me suis dit, celui-là, il faut faire quelque chose avec parce que c'est pas
tu
normal.
Tu t'es senti mal ou tu t'es dit, donc je vais écouter mon cœur et puis...
En fait, ouais. Non, je me suis pas du tout senti mal parce que les gars avec qui ça faisait ça... Ça voulait dire que c'était pas fait pour.
Ça comptait pas.
Ouais, non, pas du tout.
Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour.
Non. J'ai toujours été très dogmatique là-dessus.
À la maison.
Voilà. Parce que, mais en fait, j'ai vraiment trop peur de me faire prendre. C'est tout bête, mais sur ce genre de choses surtout, avec quelqu'un d'autre, bon voilà, on partage la peine. C'est-à-dire, bon là, ça me dérangerait pas, ça me dérangerait moins, ça serait moins gênant, je pense. Mais vraiment tout seul, bon, ouais, ça serait un peu gênant. Donc non, je suis chez moi, tranquille, et puis voilà.
Dans le confort, voilà, avec le matériel exactement, qu'il faut, voilà. L'hygiène, tout ça, on est bien. Ben, ouais. Mais pourquoi pas? On va reprendre le fil du récit de ta vie et parler de ce qui s'est passé après. Tu as eu une relation longue de 5 ans avec cette jeune fille du lycée, où vous avez en fait un peu découvert la vie ensemble. Fin de lycée, début des études, on habite ensemble. Tu m'as raconté que vous aviez une sexualité plutôt non pénétrative, mais satisfaisante. Comment ça a évolué avec les années, ça ?
Ça a évolué qu'en fait, vu qu'on habitait ensemble, qu'on faisait nos études chacun de notre côté, que ça se passait de plus en plus mal, à cause de cette jalousie, de moi mes idées en tâche de fond, d'une meilleure amie qui est rentrée un peu dans le lot, qu'en fait on faisait quasiment plus rien, une frustration qui s'installe, donc une rupture qui s'ensuit en fait.
Ça a été très logique comme parcours, mais douloureux quoi.
En fait, ça a été une rupture qui devait être simple, mais qui a été très dure. C'est-à-dire que, en fait, ça par contre, je me souviens pas de ma première fois, mais je me souviens très bien de cette rupture-là, parce qu'en fait, on en arrivait à un tel point de saturation qu'en fait, mes sentiments se sont effacés. Alors que moi, je ne sors pas avec quelqu'un si je ne l'aime pas vraiment sincèrement. Et donc, c'est pour ça aussi que mes relations ont tendance à durer, parce que c'est souvent un amour sincère. Et là, en fait, vraiment, il y a eu un moment où j'étais sur mon canapé et qu'elle faisait sa vie, et qu'à un moment, elle est venue me dire « qu'est-ce qui ne va pas ?» Et je lui fais « bah là,
il n'y a plus rien. »
Ouais, non, mais c'est-à-dire que même moi, je ne savais pas comment le dire. Comment on dit à quelqu'un qu'on ne l'aime plus ? Bon, on lui dit qu'on l'aime plus, mais sauf que, bon, quand même, faut accuser le coup.
Ça peut être un peu violent, ouais.
Voilà. Le problème, c'est que là, la guerre froide s'est installée, la meilleure amie est restée dans le coin, tout ça. Et en fait, ça s'est terminé vraiment brutalement, puisqu'il y a eu les vacances de Toussaint qui sont arrivées par là. Moi, je suis rentré chez mes parents, et en revenant, l'appart était vide.
Est-ce que tu penses que cette phase où toi, t'étais frustré, où vous partageiez plus quelque chose, où sexuellement, c'était donc endormi, tu penses qu'elle en a souffert aussi ?
Je sais pas, en fait, parce qu'on discutait plus. Et c'est vraiment presque cliché, hein, mais voilà, on discutait plus, il n'y avait plus ce rapport qu'il y avait avant. Et donc, en fait, c'est juste parti en engueulade sur la fin et on n'a même pas pu mettre certaines choses au clair, quoi.
Tu lui as reparlé depuis ?
Non. C'est en traduit au blocage de partout et depuis ce jour-là, je ne l'ai jamais revue.
Tu sais pas ce qu'elle est devenue ?
Non. Peut-être croisée dans le métro.
Mais t'es pas sûr.
Je suis pas sûr, donc bon, voilà. En plus, avec potentiellement un masque sur le visage, donc une chance sur deux, c'était pas elle.
Après cette séparation, et puis ce temps de souffrance, en fait, de mm-hmm. doute, tu décides d'écouter ton désir qui traînait un peu, donc mm-hmm. comme tu dis, en tâche de fond depuis des années. Il y a cette première fois avec un homme.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe ensuite, après cette première fois-là ?
En fait, il y a la musique qui se lance. C'est-à-dire que après cette première fois, je découvre la vie comme jamais auparavant. C'est-à-dire que la musique se lance, je peux faire ce que je veux, j'ai mon appart, qui est vide, mais bon, voilà, du coup c'est génial, on rachète un canapé, on se met par terre une nuit, et puis on réfléchit à la vie, et puis voilà.
Ça prend, on peut accueillir des gens.
Voilà, et on fait des fêtes, on peut enfin se faire des amis à la fac, on peut passer plus de temps à la fac, on n'est plus omnibulé par sa relation et par sa bulle. C'est là que je me suis fait plein d'amis et je suis très content de les avoir encore aujourd'hui. À partir de ce moment-là, même sexuellement, il y a un moment où je me dis, mais on fait ce qu'on veut, quoi.
Tu quittes le sentiment de honte.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, je me dis, là j'ai plus rien à prouver à personne. En plus, il s'est trouvé que mon coming out, et je mets des guillemets, vraiment, parce que c'était pas un coming out. J'étais à Lidl, j'ai juste dit à ma mère que peut-être qu'un jour je ramènerai un garçon au lieu d'une fille. Et puis elle a fait « Ah, tu me dis comme ça ?» Je fais « Bah oui, bah au moins t'es au courant. » C'était pas... J'ai un peu peur, pas de la réaction de mon père. Et finalement, mon père a fait... Je lui ai dit un jour au bar, entre deux pintes, entre hommes. Et je lui ai dit « Oui, bon, voilà. » Et il m'a fait « Ok, pas de souci. » Bah, j'ai fait « Bon, let's go. Hein, » puisque apparemment, ça a pas l'air compliqué de ce côté-là.
C'est-à-dire donc t'avais besoin d'en parler à tes parents quand même, avant de te lancer vraiment.
Non, j'étais déjà lancé. Mais... C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun obstacle. Et donc, je me suis dit, s'il n'y a aucun obstacle, on y va. Donc, j'ai découvert ma sexualité, j'ai fait des plans par ici et par là. En plus, avec les applications aidant, ça va très, très vite. J'ai en plus aiguisé ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas. Je me souviens très bien d'un garçon que j'ai été voir, que j'avais fait du trajet pendant les vacances d'été. J'avais pris la voiture, j'avais été le voir. Et on s'était chauffé vraiment beaucoup par téléphone, en SMS et tout ça. Et en fait, en arrivant chez lui, je devais passer le week-end chez lui. En arrivant chez lui, on a commencé à se chauffer, on s'est embrassé tout ça. Et quand il a relevé sa tête, je me suis dit, il n'y avait rien. Et en fait, bah, on a quand même passé la nuit ensemble parce que je lui ai dit, bon, maintenant que je suis là...
quitte à avoir fait le trajet,
voilà,
merde.
Exactement. Il m'a dit, bon, quitte à être là, voilà, on y va. C'était super cool, en plus. Un peu triste pour lui, mais c'était super cool. Mais on ne cherchait pas la même chose, en fait. Et donc, bah, je suis parti... comme ça, en le laissant un peu en plan. Mais en fait, ça m'a permis aussi de me dire, voilà, lui, ça va pas.
D'apprendre à t'écouter, toi.
Voilà, c'est ça. Et en fait, je me suis très, très vite orienté vers la bisexualité. Mais sans réfléchir. Parce que, en un sens, je regrettais pas non plus mes expériences avec mon ex. C'est-à-dire qu'il y avait pas un truc genre, non, j'ai fait ça parce qu'il fallait le faire, mais en fait, voilà. En plus, voilà, il y a eu une autre expérience avec une fille. Et c'est pareil, il y a eu aucun souci. Mais du coup, c'est pour ça que je me suis instinctivement dit que je suis bisexuel, parce que...
Tu t'es pas dit à un moment, en fait, j'étais gay. Tu t'es dit, non, en fait, c'est mon identité, je suis
question.
Bisexuel.
Ouais. Je me suis posé la question, parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'en fait, je suis gay. Mais en fait, pas du tout. Et c'est là que c'est intéressant, parce que du coup, je me rends compte qu'il y a des garçons qui, eux, par contre, ont vraiment ce basculement-là, et qui, des fois, ont même passé une adolescence d'hétéro, et d'un seul coup, ça bascule. Et moi, il n'y a pas eu cette bascule. C'était très enfondu. Si je devais ressortir avec une fille un jour, bon, pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité, mais ça serait pas un problème, en fait.
Il y a 2 ans et demi, tu rencontres un jeune homme.
Oui.
Dans le métro.
Oui.
Comment on rencontre des gens dans le métro ?
Alors, je le rencontre pas dans le métro. C'est-à-dire que c'est bien que ça soit moi qui soit là aujourd'hui et pas lui. Parce que si c'était lui, il rencontrerait pas l'histoire du tout pareil. Puisqu'en fait, officiellement, on s'est rencontrés sur une appli de rencontre. Là où c'est beau pour moi, c'est qu'en fait, je l'avais vu dans le métro. Et on a matché ensuite sur l'application de rencontre.
Tu veux dire que t'as sorti ton portable et t'as checké tout de suite s'il était sur une appli ?
2 ou 3 semaines plus tard.
D'accord.
Je l'ai retrouvé, mais au départ, j'ai pas capté que c'était lui. Mais sur les photos, j'ai dit, mais lui, c'est marrant, mais il me semble pas étranger. Parce que il y avait déjà eu un flash. Et en fait, ouais, c'était dans le métro. Je me suis souvenu, parce qu'en fait, il étudiait là où j'habitais. Je me souviens que cette fois, dans le métro, là, c'était pas longtemps après la rupture. En plus, je me suis assis dans le métro et... J'ai vu ce garçon, je me suis dit, bah quand même, il est vachement mignon. Et là, en plus, ça a eu un petit déclic, parce que ça a aidé avec tout ce qui se passait. Je me suis dit,
mais c'était pas une pensée que t'aurais eu avant.
Non, voilà, exactement. et en plus, ça fait un peu bizarre. Je me suis dit, bon, attends, là, c'est marrant, parce que... Et donc, vraiment, il y a eu un flash. Et quelques mois plus tard, je le retrouve sur cette application, et on discute, et au début, comme n'importe quel début de discussion sur une appli de rencontre. Et il s'est trouvé que je suis arrivé trop tard, puisque j'ai pris mon temps, j'étais pas pressé, sauf que lui a trouvé un copain entre-temps. En fait, dans l'histoire officielle, on a eu un rendez-vous quand même, sauf qu'on a eu un rendez-vous entre amis. On était censé juste être entre amis. Et du coup, moi, j'y allais entre amis. Donc c'était le pire date du monde. Parce que moi, tout ce que j'avais envie, c'est qu'il y ait bien plus. Lui, bah, il était en mode, bah non, on va boire un café. Bon, non, déconne.
On s'entend bien. Oh,
déconne pas, voilà. Donc en plus, on va boire un café, on va voir un film. Donc pire idée d'aller voir un film, puisqu'on a envie de se connaître, donc on discute. Sauf que lui aime pas discuter dans un cinéma, et les gens non plus n'aiment pas qu'on discute dans un cinéma, et je les comprends.
Donc vous vous retrouvez l'un à côté de l'autre sans rien vous dire, bah avec non, envie de vous toucher.
On parle en plus, et donc ça gêne tout le monde. Et donc lui se dit, bon, qu'est-ce qu'il est relou celui-là. Donc en fait, pour lui, dans sa tête, moi je suis le gars relou. Donc je suis frustré, et donc ce rendez-vous se termine, et je lui reparle plus, en fait, pendant plusieurs mois. Et je vis ma vie comme je racontais il y a quelques moments.
Qu'est-ce qui s'est passé pour le retrouver ? Tu l'as retrouvé ?
Il était très actif sur les réseaux sociaux. Merci, finalement, dans un sens, les réseaux sociaux, les stories, les tout ça. Dans tout le mal que ça peut apporter, des fois, c'est positif. À un moment donné, vers la fin de l'été, je me suis dit, c'est marrant, mais il n'y a pas beaucoup son copain sur ses photos. Donc, en fait, je lui ai envoyé un petit message. J'ai envoyé un petit... Je me souviens du message, j'ai dit, hey, toujours aussi BG, toi. En plus, vraiment, la phrase un peu...
Sacré accroche.
Voilà, un petit coup du pied pour... En fait, c'est ce qu'il me dit tout de suite, non mais calme-toi, ça voulait dire que bon, voilà, c'était chasse gardée, mais apparemment, non, il a répondu positivement. Maintenant, il en rigole, il trouve que ma phrase était ridicule, mais à l'époque, il avait l'air plutôt flatté.
C'était le nouveau début de votre histoire ? Ça a lancé... Il y a eu de nouveau un nouveau date
En fait, ça a été, pour moi, j'ai dit là, il faut y aller. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveau date. On n'a pas le temps. J'ai déjà eu des... Parce que c'était à la fin de l'été. Donc, pendant tout cet été-là, j'ai fait des n'importe quoi. J'ai été voir ce garçon en voiture. Je suis monté jusqu'à Rouen en train pour voir quelqu'un. Et c'était naze. On a passé un week-end pourri et j'ai dépensé tellement d'argent pour rien. Et là, j'ai dit, bon, toi, tu me plais vachement. J'ai pas envie que ça finisse en un truc nul. Et donc, En fait, je venais d'emménager dans un appartement avec mon frère et j'ai dit, bon, maintenant, je t'invite à la crémaillère. Très drôle parce qu'en fait, j'invite que mes amis à la crémaillère, dont lui. Sauf qu'on se connaît pas, en fait. Mais il accepte. Miracle. Donc il accepte de venir à la crémaillère. Il était pas là le week-end de la crémaillère, à la base, puisque il partait en voyage, et j'ai décalé la crémaillère. Donc j'ai dit à tout le monde...
Tu voulais vraiment...
Voilà, j'ai dit à tout le monde, bon là. Les gars, on décale d'une semaine, là, parce qu'il est pas là, donc voilà. Et en plus, mes invités m'en ont voulu, hein, parce que j'ai passé toute la soirée avec lui. C'est-à-dire que c'était opération séduction. Hein.
Et tout le monde était au courant que c'était ta target?
Ils étaient au courant. Mais ils étaient quand même saoulés que je parte toute la soirée. Que je fais, mais bon, vous attendiez à quoi, quoi? J'invite ma target. Voilà. Sauf que lui, il a eu un atout dans sa manche, c'est-à-dire qu'en fait, il se trouvait que le jour de cette crémaillère, c'était l'anniversaire d'une de ses meilleures amies. Et donc, vu que cette meilleure amie-là n'avait personne à son anniversaire, il a invité cette amie à la crémaillère pour son anniversaire. Enfin voilà.
Donc d'un coup, on se retrouve avec sa meilleure amie, tes amis, vous
et
deux,
lui, voilà,
dans une soirée, et, voilà. et tout le monde s'entend bien un peu, j'imagine,
oui,
j'espère.
Oui, tout le monde s'entend globalement bien, et en fait, c'est surtout amusant parce que du coup, sa meilleure amie a fait le bouclier pendant toute la soirée. Après, on peut le comprendre, il sortait d'une relation un peu compliquée lui aussi, et donc elle a fait le bouclier toute la soirée, mais moi, je suis pas né de la dernière pluie, et je me suis mis la meilleure amie dans la poche. Et comme ça, elle m'a aidé ensuite à le convaincre parce qu'il n'était pas facile en affaire.
Ça fait 2 ans et demi que vous êtes ensemble maintenant.
Oui.
Ça se passe bien.
Honnêtement, ça se passe super bien.
Et c'était la première fois que tu étais tombé amoureux d'un homme.
Oui. Et en fait, c'était super naturel. C'est-à-dire que là, par contre, lui, quand il m'a embrassé, qu'il a relevé sa tête, j'ai dit, ouais, lui, il y a quelque chose.
Est-ce que sexuellement, ça a changé quelque chose pour toi par rapport aux relations que tu as eues avec d'autres hommes dans un cadre casual, un cadre de plan? Est-ce que ça a changé quelque chose, la sexualité avec quelqu'un que tu aimais?
En fait, ça a totalement changé parce que là, il y avait de la tendresse. Que je disais au début que j'avais un peu plus de mal avec la tendresse parce qu'il y avait ce petit rejet dû à l'hétéronormativité et tout ça, et qu'on disait que c'était pas normal. Là, c'était normal. Donc il y avait la tendresse, on s'embrassait normalement, il y avait les câlins, il y avait tout ça. Et en fait, ça rajoutait vraiment une dimension super intéressante à la relation, en fait. Et même au sexe, en plus, puisque ça le rendait bien plus rose.
C'est le moment de faire une deuxième petite pause, toujours avec notre jeu Je n'ai jamais et toujours avec les mêmes règles. J'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un avec son consentement.
Oui, mais c'est pas top.
T'es pas content de toi?
Non, je suis pas content de moi parce que c'est pas... En fait, je pense qu'il faut perfectionner l'art. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, en tout cas du côté des hommes, pour un peu plus sensualiser le nude. Je pense que les femmes savent très bien le faire parce qu'elles savent jouer avec leurs courbes. Les hommes savent juste jouer avec leur gros bâton. Et c'est pas très beau. Un gros bâton, quoi qu'il en soit, c'est pas très beau. Je pense qu'il faut plus travailler sur ça et arrêter de croire qu'envoyer un pénis comme ça, un puton blanc, c'est intéressant en fait.
Donc toi, t'aimes pas forcément recevoir comme ça, si la photo est pas travaillée?
Ouais, non.
C'est pas un truc qui t'excite?
Non. Je préfère le voir en vrai.
Oui, alors au point où on en voilà. est, ça se comprend. J'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour?
Non, mais j'aimerais bien. Pourquoi pas un jour?
Est-ce qu'il y a des endroits qui te tentent particulièrement? Est-ce que t'es quelqu'un de la nature, quelqu'un de la nuit?
C'est-à-dire que moi, je pense toujours aussi un peu très logistique. C'est-à-dire que je me dis, si... Après, il peut y avoir la fellation, si on peut penser que ça, c'est un rapport, tout ça. Là, oui, je ne me dérangerai pas n'importe où, en fait. Tant que c'est dans le feu de l'action, on y va, et puis un peu n'importe où, en fait. Mais après, voilà, le rapport en lui-même, c'est vrai que c'est toujours un peu plus compliqué, forcément. Mais je pense que pour tout le monde, parce qu'il faut préparer le truc.
À cause des besoins logistiques.
Voilà, exactement.
J'ai déjà eu des soucis avec du matériel.
Non, j'ai même jamais eu de capote qui craque, je crois. Donc, j'utilise très peu de matériel. En général. Pourquoi pas à l'avenir, même si monsieur est assez...
assez frileux.
Oui, assez frileux là-dessus. J'ai eu pas le malheur, je dirais pas le malheur, mais j'en ai acheté un à un moment et Emmanuel me dit, c'est quoi ce truc? J'ai dit, bah, regarde, tu vas vite comprendre. Mais non, j'ai jamais eu de soucis.
Donc en duo, c'est pas quelque chose qui le tente lui, mais est-ce que toi, du coup, c'est quelque chose qui t'intéresse un peu ou tu es curieux?
Bah, en fait, je suis assez intéressé parce que je me dis, c'est fou ce qu'on arrive à produire pour le plaisir sexuel, en fait.
Surtout pour les hommes, ouais. Il y a quand même beaucoup de choses.
C'est ça.
Et donc, quand c'est comme ça, même cette envie, cette curiosité, on va dire, c'est quelque chose que tu regardes un peu sur Internet ou tu checkes un peu ou...
Ça m'arrive de regarder, et puis des fois, un peu malgré moi aussi, parce que je me rends compte que du coup, on a des pubs tout le temps pour ça maintenant. C'est incroyable à quel point ça a fleuri partout. Mais bon, oui, ça m'arrive.
Ça se fera peut-être dans tes pratiques en solo?
On verra, peut-être, ouais, un jour.
J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom.
Ça m'est déjà arrivé. dans cette fameuse année de transition, si on peut dire. Je pense que je connaissais pas son prénom et je pense que je voulais pas le connaître.
C'est quoi, genre, tu connaissais le pseudo
Non, même pas.
Même pas.
C'est-à-dire que c'est là, en fait, où je parlais vraiment de ce sexe un peu nul, très commande. C'est-à-dire que c'est vraiment, on a l'impression de commander un objet. Et en fait, pour la petite anecdote, une fois, j'en ai enchaîné 3 en une journée. Et en finissant le 3e, je suis sorti de là. Et là, c'était plus la honte du début, c'était vraiment « mais pourquoi on s'emmerde ? Pourquoi on fait ça ? Je vais aller boire un café et en fait, ça sera bien mieux pour ma santé parce que là, franchement, je m'épuise et puis c'est pas super en plus. »
Cette surconsommation, tu es content de l'avoir fait pour voir ?
Ouais, pour voir. Mais vraiment, après, c'est comme quand on mange trop de chocolat.
On regrette.
Au début, on est content et puis au bout de la 3e tablette, on commence à se dire « bon ».
Quand on est adulte et qu'on se dit « ah, j'ai une carte bleue, je peux acheter n'importe voilà. quoi », et puis après on se dit « ah, pourquoi voilà. j'ai fait ça ?»
Au bout de la 7e plante dans le salon.
Il y avait un article sur internet de Slate.com à une époque, c'était une personne qui, bah, du coup, dans ce délire un peu « j'ai une paye », et qui avait acheté je sais pas combien de pastèques, il me semble, dans une sorte de folie d'achat d'un coup. C'est genre « j'ai reçu ma première paye, j'ai acheté 150 pastèques ». C'était un article très très drôle parce que c'était vraiment sur la pulsion comme ça. Ça ne servait à rien et ça n'avait aucun sens. Mais je pense que c'est un sentiment qu'on connaît tous. Et c'est vrai que pour les choses faciles, c'est-à-dire en l'occurrence acheter une pastèque, acheter du chocolat, commander 5 pizzas alors qu'on est tout seul, dans le cadre du sexe entre hommes,
oui,
et applications...
Mais s'il y en a une de gratuite.
C'est ça. Et après, on se dit, je vais prendre la 6e gratuite. Enfin, c'est un peu pareil sur les applications de rencontre, quand spécifiquement sur les relations entre hommes, où c'est très rapide. Et effectivement, tu peux enchaîner toute la journée si tu as envie. La surconsommation n'est jamais bonne, en fait.
Je pense que l'argent et le sexe font vraiment la paire là-dessus.
Bah ouais, de cette culture de la surconsommation, du sentiment, de la peur de manquer, de la peur de passer à côté d'une expérience. Moi, je pense que c'est intéressant de les faire une fois. Puis après, bon, bah, une fois que tu as mangé tes 6 pizzas, tu vomis et tu ne recommences pas. Bah, c'est un peu pareil avec le sexe. Hein.
Voilà.
Si on décide d'essayer de surconsommer, peut-être on vomit pas, enfin j'espère pas. Et puis après on se dit, bon, bah, je recommencerai pas. On va désormais parler de ta dernière fois. C'était quand cette dernière fois ?
C'était hier soir.
C'était avec qui ?
C'était avec mon copain.
C'était bien ?
C'était plutôt décevant.
Oh mince.
Je pense que ça va pas lui plaire que je dise ça. Non, en vrai, c'est pas de sa faute. C'est un peu parce qu'en ce moment, c'est pas top. Pas de sa faute, ni de la mienne. C'est parce qu'on est dans un environnement très compliqué, je pense pour tout le monde. S'il faut, dans plusieurs années, les gens qui réécouteront ça se diront « mais... »
De quoi il parle ?
De quoi il parle, exactement. Donc non, en vrai, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'on travaille tous les deux dans le milieu de la culturelle, tout ça. Et donc, en fait, on est tellement focalisé sur est-ce qu'on va retravailler, est-ce qu'on va...
Quand est-ce qu'on va retravailler ?
Lui, il était en formation, tout s'est arrêté, enfin bref. Ça nous a aussi bloqué là-dessus. C'est-à-dire que hier, ce qui s'est passé, vraiment, c'était... on a voulu commencer. Et au milieu du truc, il m'a dit « Non, là, j'y arrive pas, mais c'est pas de ta faute. » C'est juste que, en fait, il avait tellement la tête dans ses problèmes... et que j'arrivais pas à lui en sortir, parce que même moi, en même temps, des fois, je me lance.
Toi, c'était pareil.
Voilà, et en fait, c'est vrai que c'est depuis quelques mois, comme ça, un petit peu compliqué, puisque des fois, on est très motivé, on se chauffe, et d'un seul coup, on a vraiment... Et c'est plus que, du coup, la liste de courses. Là, vraiment, c'est le truc ultra badant, et en fait, on se retrouve tous les deux comme des cons sur le canapé, même à poil sur le canapé, on est là, genre, bon, on se met une série Netflix, et puis voilà, quoi, on se rhabille, mais on s'aime. Mais c'est le plus important, c'est comment on en discute.
Oui, bien sûr. Bah, en fait, c'est ce que j'allais dire. C'est la différence aussi avec la relation longue durée ou la relation où il y a de l'amour. C'est que même sur les phases où c'est plus compliqué sexuellement, ça peut être le cas dans le couple où il y a un enfant qui arrive, ce genre de choses, des phases qui sont parfois déstabilisantes, fatigantes et stressantes. Bah, en fait, normalement, s'il y a de l'amour, s'il y a du dialogue, on finit par s'en sortir. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne vous arrive pas aussi. C'est quand même l'avantage aussi de s'engager ensemble.
En fait, c'est là qu'il y a eu le souci avec ma précédente partenaire. C'est qu'en fait, il n'y avait pas de communication. Et donc, dès que je me suis mis avec lui, directement, j'ai dit « Bon, on est ensemble très bien, mais par contre, on discute. S'il y a un souci, on discute. » Et des fois même, il n'est pas très bavard, donc je vais le bousculer. Je vais dire « Bon, est-ce qu'il y a un souci ?» Et des fois même, je vais créer des soucis tout seul, en fait, puisque je veux tellement qu'il y ait un problème. Mais bon, voilà, il saura reconnaître mon caractère. Je suis très, très amoureux de ce garçon. Et donc, je suis vraiment très content qu'on arrive à se comprendre là-dessus. Et qu'en fait, par exemple, hier, on arrive à s'arrêter comme ça, et dire, en fait, bon, bah c'est pas grave. On fera demain, et puis de toute façon, demain ou après-demain.
C'est même une marque de respect l'un pour l'autre, de ne pas se forcer, de ne pas continuer, et de vous écouter aussi.
Et on ne s'est pas fait la gueule derrière.
Oui.
C'est-à-dire qu'après, on s'est fait un thé, tout s'est bien passé, et puis voilà, on a dormi ensemble, et c'était super.
Est-ce qu'il y a des moments quand même, donc malgré le contexte actuel, est-ce qu'il y a des moments où, où vous, vous arrivez à avoir du plaisir ensemble, ou tu as du plaisir toi aussi tout seul?
Oui, moi tout seul, même si ça ne lui plaît pas. Il n'aime pas trop, mais là, bon, il le sait, hein, c'est pas un mystère. Même si moi, je pense que un peu trop, des fois, tout seul. C'est-à-dire qu'on est un peu enfermé là-dedans, du coup. Mais je me souviens d'un nouvel an, vraiment super sexuellement, où on a passé une très très bonne nuit, et que... oui, en fait, c'est avec des hauts et des bas, je pense.
Oui, mais c'est pas lié à vous, c'est lié à la situation.
Voilà, c'est ça, en fait.
Donc tu sais que peut-être si cet été...
si on peut partir en vacances, voilà. Si on va... Voilà, je sais que...
Moins de stress, moins de climat stressant.
Exactement, en fait. C'est ça. Et en plus, vu qu'on est tout le temps dans le même appartement, ça, ça joue parce qu'on a eu le temps d'en discuter, de voir. Et en fait, même si on aime notre appartement, au bout d'un moment, on a envie d'aller ailleurs. Et en fait, aussi, toujours le même lit, toujours le même canapé. Et en fait, à force, on voit toujours le même décor.
Vous avez besoin d'un grand changement.
C'est ça.
Comme beaucoup de gens. Est-ce que tu as le sentiment quand même que depuis le début de la relation, alors 2 ans et demi, ça commence à être bien installé, vous avez encore une complicité sexuelle ? C'est-à-dire qu'au début, on dit qu'il y a la passion. Est-ce qu'en dehors de la situation actuelle, tu as le sentiment que du coup, sexuellement, vous avez encore beaucoup de choses à faire ensemble, il y a encore beaucoup de désirs ?
De mon côté, je pense que oui. Je pense que du sien aussi. Hein. En tout cas, il n'y a pas de signe annonciateur que ce n'est pas le cas. Oui, je pense qu'il faut juste relancer la machine. Il faut mettre un peu de charbon dans la locomotive.
Mais c'est juste une affaire de temps
oui.
et de contact.
Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'aussi, il faut laisser sa chance et pas tout de suite se braquer en disant « non, c'est la faute de quelqu'un ».
En faire des drames.
Exactement. Et c'est ce que j'ai tendance à faire. Et heureusement, il est là pour ne pas laisser chauffer. Et il me dit « non, mais va t'engueuler tout seul dans le bureau et on en discute après ».
Vous avez un couple équilibré.
C'est ça.
C'est très bien. Et vous vous connaissez bien et vous vous respectez, donc c'est parfait.
Oui.
Merci beaucoup, Brian.
Ben, avec plaisir.
C'était Première et Dernière Fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Première et Dernière Fois est un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours, avec Aurélie Rodriguez. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.